Bonjour amis auditeurs, bienvenue dans cette émission sur les Pères de l'Église. Nous sommes en compagnie de Saint Jean Chrysostome qui déjà depuis quelques semaines nous commente pour nous le livre des Actes des Apôtres et nous sommes à la 33e homélie de son recueil. Et pour son homélie, Jean Chrysostome prend le texte suivant. Après qu'il se soit tu, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Siméon vous a raconté comment Dieu a songé d'abord à prendre chez les gentils un peuple consacré à son nom, et il est d'accord avec les paroles des prophètes. » Jacques était évêque de l'église de Jérusalem, aussi parle-t-il le dernier. Et ainsi se trouve accompli ce passage de l'Écriture, toute parole sera établie par la bouche de deux ou trois témoins. Remarquez avec quelle sagesse il fonde son avis sur les nouveaux et les anciens prophètes. En effet, il ne pouvait pas citer ses œuvres personnelles comme Pierre et comme Paul. Aussi, la Providence avait-elle tout bien disposé pour que les travaux dont il s'agissait soient l'ouvrage des apôtres qui ne devaient pas résider à Jérusalem et que Jacques, qui enseignait dans cette ville, n'y ait pas de part, mais ne soit pas d'un avis opposé. Que dit-il ? Frère, écoutez-moi, Siméon vous a raconté. Frère, dit Jacques, voilà un homme plein de bienveillance et une harangue plus parfaite encore, puisqu'elle termine le débat. Comment Dieu a songé d'abord à prendre chez les gentils un peuple consacré à son nom, et il est d'accord avec les paroles des prophètes. Comme il était connu depuis peu de temps et qu'il n'inspirait pas autant de confiance que les anciens, il cite une ancienne prophétie disant « Ainsi qu'il est écrit, je reviendrai ensuite édifier de nouveau la maison de David qui est tombée, je réparerai ses ruines et la relèverai, afin que le reste des hommes et tous les gentils qui seront appelés de mon nom cherchent le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur qui fait tout cela. » Quoi donc ? Jérusalem a-t-elle été relevée ? N'a-t-elle pas été plutôt détruite ? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quelle est donc la restauration dont il parle ? La même que celle qui suivit la ruine de Babylone. Dieu connaît ses œuvres de toute éternité. Tout cela est digne de foi, car il n'avance rien de nouveau, mais tout a été prévu dès le commencement. Enfin, il donne son avis. C'est pourquoi je juge qu'il ne faut point inquiéter les gentils qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur doit seulement écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, des chairs étouffées et du sang. Car quant à Moïse, il y a eu de tout temps dans chaque ville des hommes qui le prêchent dans les synagogues où on le lit chaque jour de sabbat. Comme les gentils ne connaissaient pas l'ancienne loi, il leur en impose avec raison quelques prescriptions pour ne pas paraître l'abroger. Voyez, du reste, qu'il ne les impose pas comme faisant partie de la loi, mais comme venant de lui-même, puisqu'il dit « je juge », c'est-à-dire « je le pense de moi-même » et non pour l'avoir lu dans la loi. Ensuite, on prononce la décision générale. Alors il fut résolu par les apôtres et les prêtres avec toute l'Église de choisir quelques-uns d'entre eux pour envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ils choisirent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, qui étaient les principaux d'entre les frères. Et ils écrivirent par leurs mains ce qui suit. Vous voyez qu'ils ne se contentent pas d'établir ces règles, mais pour qu'elles soient reçues avec plus de confiance, ils envoient quelques-uns d'entre eux afin que Paul et ses amis ne soient pas suspects. Voyez aussi quelle sévérité dans les termes de cette lettre. Les apôtres, les prêtres et les frères à nos frères dans les gentils, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Comme nous avons su que quelques-uns qui venaient d'entre nous vous ont troublés par leurs discours et ont renversé vos âmes en vous disant de circoncire vos enfants et d'observer la loi de Moïse sans que nous leur en ayons donné l'ordre. Cela suffisait pour condamner cette témérité, mais la bonté des apôtres les empêche d'insister. Après nous être rassemblés dans un même esprit, nous avons jugé à propos de vous envoyer des personnes choisies avec nos chers frères Barnabé et Paul, qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit par là que ce n'était pas un ordre tyrannique, qu'ils étaient tous d'accord et qu'ils n'avaient écrit qu'après avoir bien réfléchi. Nous avons choisi, disent-ils, des messagers parmi nous. Ensuite, afin qu'on ne puisse croire qu'ils soient envoyés pour nuire à Paul et à Barnabé, voyez l'éloge de ces apôtres, ils ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront la même chose de vive voix, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Tout cela n'a donc rien d'humain, puisque c'est le Saint-Esprit qui le décide, de ne point vous imposer d'autres charges. Ainsi, ils avouent de nouveau que la loi est une charge pesante. Du reste, ils s'expliquent à ce sujet. D'autres charges que celles-ci qui sont nécessaires, de vous abstenir de ce qui aura été sacrifié aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de la fornication, dont vous ferez bien de vous garder. Certaines de ces prescriptions ne sont point dans la nouvelle loi, car le Christ n'en a point parlé, mais ils empruntaient cela à l'ancienne loi. En parlant de chairs étouffées, ils défendent le meurtre. Ayant donc été envoyés, ils vinrent à Antioche où ils assemblèrent les fidèles et leur remirent la lettre. Ceux-ci, l'ayant lu, eurent beaucoup de joie et de consolation. Pour mieux faire voir en quoi consistait cette consolation, il est encore écrit. Jude et Silas, étant eux-mêmes prophètes, consolèrent et fortifièrent les frères par plusieurs discours, et après être restés là quelque temps, ils quittèrent les fidèles et retournèrent en paix auprès des apôtres. Plus de discussion ni de lutte. Aussi, après les avoir fortifiés, ils partent en paix. Ils étaient venus pour critiquer Paul et la doctrine de Paul s'établit. Ainsi, l'Église ne connaissait pas la vanité, mais tout y respirait la modération. Voyez en effet, Paul parle après Pierre et personne ne lui impose silence. Jacques attend et ne se hâte point de parler, cependant il présidait l'assemblée. Jean et les autres apôtres n'élèvent pas la voix, ils se taisent et ne s'emportent pas, tant leur âme est exempte de vanité. Mais revenons sur ce qui précède. Après qu'ils se soient tus, Jacques prit la parole et dit « Simon a raconté comment Dieu conçut d'abord ce dessein. » Pierre avait parlé avec plus de véhémence, mais Jacques s'exprime plus posément. C'est ce que l'on doit faire dans une haute position. Il faut laisser dire par d'autres ce qui peut être pénible à entendre et parler avec plus de douceur. Il a raison de dire « Siméon a raconté, il semble ne faire ici que rapporter la vie des autres. » Observez qu'il montre que depuis longtemps, Dieu avait ce dessein de prendre chez les gentils un peuple consacré à son nom. Non seulement il le choisit, mais encore il l'associe à son nom, c'est-à-dire à sa gloire. Il ne regarde point la vocation des gentils comme une honte pour son nom, il l'appelle une gloire. En effet, cette gloire s'en accroissait. Mais il donne aussi à entendre quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce donc ? C'est que l'élection des gentils est la plus ancienne. Je reviendrai ensuite édifier de nouveau la maison de David qui est tombée. En réfléchissant là-dessus, on reconnaîtra que la maison de David est encore debout, car puisque c'est un de ses descendants qui règne, son royaume s'étend partout. Qu'importeraient les maisons et la ville s'il n'y avait pas de sujet ? Et quel dommage la ruine de la ville peut-elle causer lorsque tout le monde serait prêt à se sacrifier pour le souverain ? Aussi, non seulement cette maison subsiste, mais elle brille par-dessus toutes les autres, car elle est aujourd'hui célèbre par tout l'univers. Or, si la maison de David a été relevée, il est de toute nécessité qu'elle ait été auparavant renversée. Quand il dit « Je rétablirai », il en explique la raison, pour que les autres hommes cherchent le Seigneur. Si donc la ville a été relevée par celui qui devait se choisir un peuple parmi les gentils, il est clair qu'elle a été élevée à cause de la vocation des gentils. Quels sont les autres hommes ? Ceux qui étaient alors abandonnés. Mais observez qu'il en parle à leur place, c'est-à-dire en dernier. C'est ce que dit le Seigneur qui fait tout cela. Non seulement il le dit, mais il le fait. Ainsi la vocation des gentils est l'œuvre de Dieu. On posait une autre question que Pierre résolut clairement en disant « Il n'est pas nécessaire de les circoncire. » À quoi bon ce discours ? C'est qu'on ne prétendait pas exclure les gentils fidèles, on disait seulement qu'il ne fallait les admettre que d'après l'ancienne loi. Voilà pourquoi Pierre a eu raison de parler ainsi, mais comme c'était là ce qui inquiétait le plus l'auditoire, Jacques s'en occupe à son tour. Remarquez qu'il s'agissait de faire une loi pour ne pas accomplir la loi, comme Pierre l'avait déjà insinué. Maintenant, il fallait montrer que notre vocation, à nous autres gentils, était décidée depuis longtemps. C'est ce que fait Jacques. Puis il arrive aux prescriptions dont les Écritures n'ont point parlé. Il fait, pour apaiser les scrupules, une concession à la faveur de laquelle il émet cette conclusion. Aussi, je juge qu'il ne faut point inquiéter les gentils qui se convertissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les repousser. Car si Dieu les a appelés et si nos pratiques les détournent, nous combattons contre Dieu. C'est pourquoi il parle avec raison des gentils qui se convertissent, montrant par là que c'était la providence céleste qui les réclamait et que leur obéissance ne faisait que répondre à son appel. Quatrième homélie. Paul et Barnabé restèrent à Antioche où ils annonçaient avec plusieurs autres la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabé : Retournons visiter nos frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Remarquez une fois de plus avec quelle complaisance ils prodiguent leurs paroles. Quant aux autres apôtres, saint Luc nous a déjà fait connaître leur caractère et nous a fait voir que les uns étaient plus doux et plus indulgents, les autres plus fermes et plus sévères. En effet, les dons des hommes sont différents, et il est clair que cette différence est elle-même un don. Un caractère sympathise avec certaines mœurs, et un autre caractère avec certaines autres. Changez tout cela, vous gâterez tout. Vous croyez voir parfois s'élever une discussion, mais tout est providentiel, et rien n'arrive que pour mettre chacun à la place qui lui convient. Du reste, il ne fallait pas que tous soient au même rang. Il fallait au contraire que l'un commande et que l'autre obéisse. C'est encore un effet de la providence. Les Cypriotes ne ressemblaient pas à ceux d'Antioche ni aux autres fidèles. Il fallait les traiter avec plus de douceur. Barnabé voulait prendre avec lui Jean, surnommé Marc, mais Paul le priait de ne pas emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas pris part à leur œuvre. Il y eut donc entre eux une contestation, à la suite de laquelle ils se séparèrent, et Barnabé, ayant pris Marc, fit voile pour Chypre. Paul, ayant choisi Silas, partit avec lui, après avoir été abandonné à la grâce de Dieu par les frères. De même, chez les prophètes, nous trouvons diverses habitudes et divers caractères. Par exemple, Élie était sévère et Moïse était doux. Ici, Paul fut inflexible, cependant il montre encore de la condescendance. Il priait Barnabé de ne pas emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie. Un général ne voudrait pas garder constamment un serviteur indigne de lui. Il en est de même pour un apôtre. C'est ce que Paul fait voir à tout le monde et à son collègue en particulier. Quoi, direz-vous, Barnabé était-il un méchant homme? Nullement, et il serait même absurde de le penser. Quelle absurdité, en effet, d'appeler quelqu'un méchant pour une chose aussi peu importante. Mais remarquez d'abord qu'il n'y avait aucun mal à ce qu'ils se séparent, si par ce moyen ils pouvaient évangéliser tous les gentils. C'était même un grand bien. Remarquez ensuite que sans cette occasion, ils auraient eu de la peine à se séparer. Peut-être vous étonnerez-vous que saint Luc n'ait point passé cela sous silence. Mais, ajouterez-vous, s'ils devaient se séparer, il fallait le faire sans discussion. C'est ici que la nature humaine se montre. Si les intérêts du Christ l'exigeaient, rien ne valait mieux que cette occasion. Du reste, une discussion n'est point blâmable quand elle a lieu sur de pareils sujets et que chacun défend une idée juste. On ferait bien de la condamner si chacun des adversaires ne soutenait que son avantage particulier. Mais quand tous deux cherchent à enseigner et à convertir, si chacun prend une route différente, quel mal y a-t-il à cela ? Ils se dirigeaient souvent par la raison humaine, car ils n'étaient faits ni de pierre ni de bois. Voyez que Paul reprend le choix de Barnabé et donne ses raisons. Barnabé, qui avait été son compagnon et son associé dans tant de circonstances, avait sans doute beaucoup de respect pour lui, mais ce respect n'allait pas jusqu'à négliger son devoir. Lequel des deux avait raison ? Ce n'est pas à nous d'en juger. Mais ce fut un événement providentiel, car sans cela, tandis que certains peuples auraient été visités deux fois, d'autres ne l'auraient pas été une seule. Ce n'était pas sans raison qu'ils étaient restés à Antioche, c'était pour enseigner. Qui enseignait-il? À qui prêchait-il l'évangile? Tantôt aux fidèles, tantôt à ceux qui ne l'étaient pas encore. Comme il y avait une foule de scandales, leur présence était nécessaire. Il faut voir non pas en quoi ils ont différé, mais en quoi ils ont été d'accord. Ainsi, leur séparation produisit un grand bien et la prédication en prit un nouvel essor. Quoi donc? Se séparèrent-ils ennemis? Non, certes, car vous voyez ensuite Paul combler Barnabé de louanges dans ses épîtres. Il y eut entre eux une contestation, mais ce n'était pas une hostilité ni une querelle. Cette contestation fit qu'ils se séparèrent, et avec raison, car ce que chacun d'eux pensait être utile, il aurait pu le faire plus tard à cause de son compagnon. Je crois que cette séparation a été décidée avec réflexion et qu'ils se sont dit l'un à l'autre, « Puisque je ne veux pas ce que tu veux, ne disputons pas. Allons chacun de notre côté. » Ils montrèrent donc beaucoup de condescendance mutuelle. Barnabé voulait respecter l'œuvre de Paul et c'est pour cela même qu'il le quittait. De même, Paul ne voulait pas nuire aux travaux de Barnabé. Aussi agit-il de même en le laissant aller. Plaise au ciel que chez nous aussi, les séparations n'aient pas d'autre cause que le zèle de la prédication. Paul, ayant choisi Silas, partit avec lui, après avoir été abandonné à la grâce de Dieu par les frères. Voilà un homme admirable et véritablement grand. Cette discussion fut bien profitable pour Marc. La sévérité de Paul le convertit, et l'indulgence de Barnabé empêcha qu'il ne soit laissé de côté. Tel est l'avantage auquel aboutit en résumé cette lutte. Se voyant repoussé par Paul, il s'effraya beaucoup et se condamna lui-même, mais se voyant protégé par Barnabé, il s'attacha à lui et le disciple fut corrigé par la contestation élevée entre les apôtres, tant il fut loin d'en être scandalisé. Il l'aurait été sans doute si les apôtres n'avaient agi que par vanité, mais puisqu'il semblait ne rien faire que pour son propre salut et que cette discussion prouvait qu'on faisait bien de l'estimer, de quoi pouvait-il s'étonner? Remarquez la sagesse de Paul. Il n'entre point dans d'autres villes avant de visiter celles qui avaient déjà reçu la parole. Il traversa la Syrie et la Cilicie, confirmant les églises. Il arriva à Derbé et à Lystre. En effet, il n'aurait pas été raisonnable de courir au hasard. Agissons de même, et que les premiers instruits soient aussi les premiers perfectionnés, pour qu'ils ne fassent pas obstacle à ceux qui les suivent. Visitons nos frères, dit-il, pour voir en quel état ils sont. Il était naturel qu'il ignore aussi voulait-il les revoir. Voyez comme il est toujours vigilant, inquiet, incapable de repos et s'exposant à mille dangers. Observez que ce n'est point par crainte qu'il est venu à Antioche. Il ressemble à un médecin qui va voir ses malades et il montre la nécessité de visiter encore les villes où ils ont annoncé la parole du Seigneur. Barnabé s'est éloigné et ne l'accompagne plus. Paul choisit Silas et fut abandonné à la grâce de Dieu. Que signifie cela? C'est que les frères prièrent et invoquèrent Dieu pour lui. Vous voyez partout combien la prière des frères est puissante. Il fit la route à pied afin de pouvoir être utile à tous ceux qui le voyaient, et cela se comprend. Quand les apôtres devaient se hâter, ils voyageaient par mer, mais ici il en était autrement. Il rencontra un disciple nommé Timothée, fils de femme juive fidèle et d'un père gentil. Les frères qui étaient à Lystre et à Icône rendaient un témoignage avantageux à ce disciple. Paul voulut donc qu'il vienne avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient en ces lieux-là, car tous savaient que son père était gentil. Ici, l'on doit être frappé de la sagesse de Paul. Lui qui avait soutenu tant de luttes contre la circoncision, qui n'avait eu ni trêve ni repos avant d'avoir tout réglé et fait triompher son opinion, le voilà qui circoncit un disciple. Non seulement il ne s'oppose point à cet usage, mais il le pratique même, lui-même. Rien n'égalait la prudence de Paul, il agissait toujours pour le bien, et non d'après un parti pris. Il voulut qu'il vienne avec lui. Admirez cette précaution de l'emmener à cause des Juifs qui étaient en ces lieux-là. Voilà pourquoi il l'a circoncis, car les Juifs n'auraient jamais accepté la parole de Dieu de la bouche d'un incirconcis. Et qu'en résulta-t-il? Voyez quel avantage. Cette circoncision tendait à détruire la circoncision, puisque le nouveau fidèle devait prêcher les dogmes des apôtres. Voyez une contradiction et une contradiction qui produit l'édification. Ce n'est plus avec d'autres qu'ils sont en lutte. Ils se contredisent eux-mêmes et c'est pour édifier l'Église. Ainsi, voulant supprimer la circoncision, Paul la pratique pour mieux la supprimer. Les églises croissaient en nombre de jour en jour. Voilà à quoi servait la circoncision. Il ne s'arrête pas là puisqu'il venait seulement pour visiter. Mais que fait-il ? Il va plus loin. Allant de ville en ville, il donnait pour règle aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et par les prêtres de Jérusalem. Aussi, les églises étaient confirmées dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Étant venus en Mysie, ils se disposaient à passer en Bithynie, mais l'Esprit ne le permit pas. L'auteur ne dit pas pourquoi ces défenses leur furent imposées. Il se contente de les rapporter, ce qui nous apprend qu'il faut obéir sans en rechercher la raison, et nous montre aussi que souvent ils agissent d'après la sagesse humaine. Ils passèrent ensuite la Mysie et descendirent à Troade. Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière : Passez en Macédoine et secourez-nous. Pourquoi cette vision et pourquoi le Saint-Esprit ne commanda-t-il pas lui-même ? C'est qu'il voulait aussi exercer son influence de cette manière. Souvent, les saints sont visités par des songes, et saint Paul lui-même, au commencement de sa conversion, vit apparaître un homme qui lui imposait les mains. Actuellement, le Saint-Esprit l'entraîne par ce moyen à étendre davantage sa prédication. C'est pour cela que, d'après l'ordre du Christ lui-même, Paul ne doit pas s'arrêter dans d'autres villes. En effet, les habitants de ces contrées devaient sans doute être instruits encore longtemps par Jean et n'avaient peut-être pas besoin d'autres secours. Aussi, Paul n'avait-il pas besoin d'y rester. Il partit donc pour continuer son voyage. Aussitôt qu'il eut cette vision, nous nous sommes disposés à passer en Macédoine, ne doutant point que Dieu nous appelait pour y prêcher l'Évangile. Nous étant donc embarqués à Troade, nous sommes venus droit à Samothrace et le lendemain à Néapolis. De là à Philippe, qui est la première colonie romaine qu'on rencontre de ce côté-là, en Macédoine, où nous avons demeuré quelques jours. Trente-cinquième homélie. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville et nous sommes allés près de la rivière, où était le lieu ordinaire de la prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. Il y en avait une nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui servait Dieu. Elle écouta et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour être attentive aux paroles de Paul. Voilà encore Paul qui se rapproche des habitudes juives à cause des circonstances de temps et de lieu. On ne priait pas seulement dans la synagogue, mais en dehors. Il y avait pour cela comme un rendez-vous, car les usages des Juifs avaient quelque chose de matériel. Le jour du sabbat, car il est probable que la foule se rassemblerait ce jour-là, nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. Il y en avait une, nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui servait Dieu. Elle écouta et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour être attentive aux paroles de Paul. Tout cela est bien modeste. Il s'agit d'une femme de condition obscure, comme on le voit par sa profession, mais voyez quelle sagesse elle possède. On lui rend d'abord ce témoignage qu'elle craignait Dieu et qu'elle invita les apôtres. Après qu'elle eut été baptisée et sa famille avec elle, elle nous fit cette prière. « Si vous me croyez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y força. Voyez comment elle les persuade tous. Remarquez aussi la prudence avec laquelle elle supplie les apôtres, l'humilité de ses paroles et sa grande sagesse. « Si vous me jugez, dit-elle, fidèle au Seigneur. » Rien n'est plus puissant pour persuader. Qui ne saurait toucher de semblables paroles ? Ce n'était pas seulement des instances, des supplications, c'était de la contrainte, puisqu'on ajoute « elle nous y força », c'est-à-dire par ses paroles. Voyez quel fruit précoce et comme elle apprécie l'importance de sa conversion. Vous me jugez fidèle, vous l'avez prouvé en me confiant de pareils mystères, car vous ne l'auriez pas fait sans avoir confiance en moi. Elle n'osa pas les inviter avant d'avoir été baptisée, ce qui prouve qu'elle n'aurait pu les y engager avant cela. Pourquoi Paul et ses compagnons hésitaient-ils, refusaient-ils, au point de se faire contraindre ? Pour exciter le zèle de cette femme, ou bien pour la raison que dit le Christ, quand vous entrerez dans une ville, informez-vous si quelqu'un mérite de vous recevoir et demeurez chez lui. Ainsi, la providence conduisait tout. Or, il arriva que, comme nous allions au lieu de la prière, nous avons rencontré une servante qui, ayant un esprit pythien, apportait un grand gain à ses maîtres en devinant. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut qui nous annoncent la voie du salut. » Pourquoi le démon dit-il de pareilles choses et pourquoi Paul s'y oppose-t-il ? C'était malignité d'un côté et prudence de l'autre, car le diable voulait ainsi empêcher les apôtres d'être dignes de foi. En effet, si Paul avait accepté son témoignage, le démon aurait trompé les fidèles en se prévalant d'une pareille approbation, car le démon ne les vante que pour s'établir à leur place et ne s'humilie que pour les perdre. Aussi, Paul se contenta d'abord de ne pas accepter ce témoignage et de le repousser, ne voulant point prodiguer les miracles, mais comme le démon persévérait plusieurs jours et dévoilait ses intentions en disant toujours « Voilà les hommes du Dieu Très-Haut qui nous annoncent la voie du salut », il lui commanda de sortir. Paul, ayant peine à le souffrir, se tourna vers elle et dit à l'esprit « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille » et il sortit à l'heure même. Mais les maîtres de cette fille, voyant qu'ils avaient perdu l'espérance de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les ayant emmenés dans la place devant ceux qui commandaient dans la ville, ils les présentèrent aux magistrats en leur disant « Ces hommes troublent toute notre ville, car ce sont des Juifs qui veulent établir une manière de vivre qui ne nous est point permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Ainsi, l'argent cause du mal partout. Ô cruauté des païens ! Ils voulaient que cette servante reste possédée, afin de leur rapporter de l'argent. Ils se saisirent de Paul et de Silas, et ils disaient « Ces hommes troublent toute notre ville. Que faisaient-ils pour cela ? Pourquoi ne pas les avoir arrêtés plus tôt ? Car ce sont des Juifs, tant ce nom avait une mauvaise réputation. Ils veulent établir une manière de vivre qui ne nous est point permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Ils en font un crime de lèse-majesté. La foule se jeta sur eux. Ô folie ! Ils n'examinent point, ils ne réfléchissent pas. Tandis qu'après un pareil miracle, on aurait dû se prosterner devant les apôtres et les regarder comme des bienfaiteurs et des sauveurs. Si vous voulez des richesses, pourquoi ne pas vous empresser de recueillir ces immenses trésors ? N'est-il pas plus beau de pouvoir chasser les démons que de leur obéir ? Voilà des miracles, mais l'amour de l'argent l'emporta. Les magistrats firent déchirer leurs habits et commandèrent qu'ils soient battus de verges, et après qu'on leur eut donné plusieurs coups, ils les mirent en prison et ordonnèrent au geôlier de les garder sûrement. Ainsi, c'était Paul qui avait tout fait, les miracles et la prédication. Cependant, Silas partagea ses dangers. Pourquoi dit-on que Paul eut peine à souffrir ces paroles ? C'est à cause de la malice du démon, dont il dit ailleurs « Nous n'ignorons point ses pensées ». Pourquoi les habitants ne disent-ils pas « Ils ont chassé un démon, ils ont été impies envers Dieu » ? Pourquoi font-ils de cela un crime de lèse-majesté ? C'est qu'autrement ils se seraient avoués vaincus. C'est ainsi que l'on disait à propos du Christ « Nous n'avons d'autre roi que César. Quiconque se prétend roi est l'ennemi de César. » Ici, ils les mirent en prison, tant était grande leur fureur. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les mit dans un cachot et leur serra les pieds dans des ceps. Observez qu'il les met dans un cachot, et cela est encore providentiel. Comme il allait se produire un grand miracle, tout se passa en dehors de la ville, dans l'endroit le plus convenable, et à l'abri de toute tentative et de tout danger. Remarquez combien l'historien s'attache à tout indiquer. Voilà, chers amis, Trois événements caractérisent le séjour de Paul à Philippe. Trois événements importants, nous venons d'en voir les deux premiers. La première, c'est l'évangélisation et le baptême de Lydie et de sa famille. Le deuxième, c'est son arrestation avec Silas, après avoir exorcisé une esclave exploitée par ses maîtres. Et la troisième est encore à venir, nous la verrons la semaine prochaine, la conversion et le baptême de son geôlier et de toute sa famille. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir donc la fin du séjour de Paul à Philippe. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Salve Regina. Au revoir.